Info à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 15h à Bamako, 17h à Kigali. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Au Mali, décès d'un casque bleu tchadien blessé dans l'attentat djihadiste d'Aguelok dans le nord-est du pays le 20 janvier. Ce qui porte à 11 le bilan de cette attaque, la plus meurtrière subie par la MINUSMA, la force de l'ONU sur place. C'est ce qu'annonce ce vendredi la mission onusienne. Pour sa part, l'armée malienne a indiqué jeudi soir qu'un raid conduit mercredi en coordination avec la force française Barkhane dans la région de Mopti, dans le centre du pays, avait permis la libération de deux otages, des employés locaux de l'ONG Care Mali kidnappés par des djihadistes. Alassane Dembélé et Cheikh Oumar Ouattara avaient été enlevés il y a plusieurs mois, a souligné le ministère malien de la Défense. L'aviation française avait bombardé les positions des islamistes en question dans le cadre de l'opération, mettant hors de combat plusieurs terroristes, selon un communiqué de l'état-major des armées à Paris. Toujours concernant la lutte contre les djihadistes, mais au Cameroun maintenant, près de 200 anciens membres camerounais du groupe djihadiste nigérian Boko Haram sont volontairement rentrés dans leur pays depuis le Nigeria. Les détails avec John Lindon.
Originaire du département du Mayo-Sava dans l'extrême nord du Cameroun, 187 ex-djihadistes sont rentrés à pied du Nigeria voisin et se sont rendus aux autorités de Kolofata et Mémé. Ils ont été amenés à la base de la force mixte multinationale. La semaine dernière, environ 200 d'entre eux, dont des enfants de moins de 15 ans, avaient déjà été amenés au camp de Mora. Un millier d'anciens djihadistes sont rentrés au Cameroun depuis un appel en ce sens, lancé il y a un an par le président Paul Biya. Ils ne courent aucun danger et tout sera mis en œuvre pour les resocialiser, a déclaré Mehdi Yawa Bakari, gouverneur de la région. Un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion a été mis en place pour leur permettre de reprendre une vie normale. Après les enquêtes pour s'assurer qu'ils ont définitivement rompu les liens avec Boko Haram, ces ex-djihadistes seront transférés dans la localité de Mouré, dans l'extrême nord, où un terrain de 13 hectares leur a été alloué.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élections présidentielles et législatives au Nigeria demain samedi. L'IPOB, le mouvement autochtone des peuples du Biafra, groupe séparatiste qui réclame l'indépendance de cette région du sud-est du pays, a créé la surprise ce vendredi en levant sa menace de boycott du scrutin de samedi. Dans un tweet publié jeudi soir, le chef du mouvement indépendantiste Nnamdi Kanu a souligné que les conditions ont été remplies pour cela, sans donner plus de précision sur les conditions auxquelles il fait référence. Le leader de l'IPOB n'a fait aucune déclaration sur le candidat de son choix à la présidentielle, mais le président Muhammadu Buhari, qui brigue un second mandat, est depuis longtemps un ennemi juré du mouvement indépendantiste Biafra. Et toujours concernant les élections au Nigeria, le président de la Cour suprême nigériane, qui a autorité pour départager les candidats en cas de litige et d'accusation de fraude électorale, a plaidé ce vendredi non coupable de 6 chefs d'accusation de fraude et corruption au tribunal du code de conduite à Abuja, la capitale. Cet instance judiciaire est chargé d'examiner entre autres les affaires de non-déclaration ou de fausses déclarations sur les biens des suspects. La suspension du juge Walter Onogen par le président Muhammadu Buhari à moins d'un mois des élections de samedi avait provoqué une immense polémique. La présidentielle de demain s'annonce très serrée entre le président sortant Muhammadu Buhari, qui brigue un second mandat sous la bannière de l'APC, le Congrès des progressistes au pouvoir, et son principal rival, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, le candidat du PDP, le Parti populaire démocratique. Et pour terminer, actualité américaine, ici à Washington, le président Donald Trump doit déclarer ce matin l'état d'urgence national pour pouvoir contourner le Congrès des États-Unis et obtenir l'argent qu'il réclame pour financer le mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique. Il justifie cette procédure exceptionnelle par ce qu'il a appelé une crise de sécurité nationale et humanitaire à cette frontière. Par ailleurs, pour éviter un autre shutdown, une fermeture partielle des administrations fédérales faute de budget, le chef de l'exécutif américain doit promulguer avant minuit le compromis budgétaire adopté hier par la Chambre des représentants et le Sénat. Merci de votre attention.
La Minute Éco avec Nanita.